Le psaume 139, un psaume bien connu et sur lequel nous allons baser notre méditation de ce matin, croyant que le Seigneur veut nous parler de manière personnelle. Psaume 139, verset 1, au chef des chantres de David, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. On a tous au moins une fois entendu une partie de ce psaume, ou au moins une pensée qui est retenue dans ce psaume. Mais combien c'est bon de repasser sur nos cœurs ces vérités qui sont là. Ce qui m'a interpellé quand j'ai relu pour la xième fois, je ne peux pas vous dire combien de fois ça fait que je le lis, mais quand je l'ai relu, ce qui m'a interpellé, c'est cette notion de la connaissance de Dieu. Le fait que Dieu connaît tout. On sait qu'au travers de ce psaume, on entend combien Dieu est omniscient. Omniscient, il sait tout de nous, il sait tout de nous à la perfection, mieux que n'importe qui, mieux que nous-mêmes, mieux que quelqu'un de notre famille, il sait tout de nous, le Seigneur. Et pour ceux qui ont la foi, pour ceux qui le connaissent, c'est quelque chose qui rassure, mais pour ceux qui parfois sont chancelants ou sont dans le compromis, c'est quelque chose qui peut faire peur, parce que le Seigneur sait tout, le Seigneur connaît tout, le Seigneur sait exactement ce que nous pensons à ce moment même. Est-ce que nous sommes en train de penser au repas de midi? Est-ce que nous sommes en train de penser à ce que nous allons faire cet après-midi? Ou est-ce que nous sommes en train de penser à ce qu'il est en train de nous dire? Le Seigneur le sait. Heureusement, parfois, que les pasteurs ne savent pas tout. Parce que des fois, on s'est découragé, je pense. Mais le Seigneur, lui, sait. Et c'est son affaire. Nous, mon affaire, moi, ce matin, c'est de vous porter cette parole qu'il a mise sur mon cœur. Et c'est de vous dire que la foi, oui, c'est connaître Dieu. Mais la foi, ça va plus loin que ça. La foi, c'est se laisser connaître par Dieu. Et c'est beaucoup plus profond. Connaître Dieu, c'est presque facile, dans la mesure où on lit, et on a une connaissance intellectuelle en lisant qui grandit, normalement. Si on lit les choses et qu'on comprend, voilà, on voit que Dieu connaît tout. Et on peut savoir que Dieu connaît tout, on peut savoir que Dieu sait tout, mais on reste de marbre, totalement impassible à ce qu'il est en train de nous révéler. On peut savoir que Dieu nous aime. Est-ce que c'est bien de savoir que Dieu nous aime? Ben c'est bien, parce qu'il y a des gens dans ce monde qui sentent, ils n'ont aucun amour. Ils pensent que personne ne les aime. Et le fait de savoir que Dieu nous aime, c'est bien, Mais c'est beaucoup mieux de laisser l'amour de Dieu être répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, de dire « Seigneur, tu vois, je suis sans amour, Seigneur, j'ai tel ou tel manque, mais toi tu m'aimes. » Et le Saint-Esprit répand son amour dans nos cœurs et on laisse son amour se faire connaître à notre cœur, ça change tout. Ça n'a rien à voir. Vous comprenez la différence ? Comprendre les choses de manière intellectuelle, c'est bien, on en a besoin, mais au point de vue de la foi, c'est pas suffisant. La foi, c'est expérimenter la réalité de ce que Dieu dit au travers de sa parole. S'il nous parle d'amour, alors on laisse l'amour de Dieu nous pénétrer. Si on parle de paix, on laisse la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garder nos cœurs et nos pensées. Si on parle de confiance, comme ça a été dit tout à l'heure, on peut dire oui, c'est bien de mettre sa confiance en l'Éternel, mais là on est placé, la parole de Dieu nous place devant un choix. Est-ce que tu fais confiance à ton Dieu ? C'est à toi de le faire. C'est à chacun de nous de le faire. Souvent, je prends cette image que je trouve très simple et très belle. Un vase peut avoir la connaissance que l'océan peut le remplir. C'est bien. Mais s'il est fermé, ça lui sert à quoi ? À rien. Mais un vase qui a la connaissance que l'océan peut le remplir et qui ouvre le bouchon, il est comblé, il déborde, il est rempli. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire avec nous. La foi, c'est d'ouvrir le bouchon. La foi, c'est de décapsuler la bouteille et de dire « Seigneur, maintenant remplis-moi. Je veux être connu de toi. Je veux que tu puisses avoir la place en moi pour faire ce que tu veux de ma vie. » Et on remarquait ce que fait David du début à la fin. Il commence en disant « Dieu, tu me sondes et tu me connais. » Voilà, il fait un constat. Voilà ce que je sais. Dieu, tu es un Dieu qui sonde. Tu es un Dieu qui connaît. Tu es un Dieu qui va au fond des choses. Quand il regarde le Seigneur, c'est des rayons X qui nous pénètrent jusqu'au fond de notre cellule et même au fond de notre cœur, de manière physique, psychologique et spirituelle. Le Seigneur nous voit de toutes ces manières-là. Mais David le dit, je sais que c'est vrai. Mais regardez comment il termine. C'est une prière, une supplication. Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Seigneur, je sais que tu sondes, je sais que tu connais, mais je veux que tu le fasses. Je veux que ça soit une réalité pour moi. Oh frères et sœurs, combien de fois on s'est arrêté au fait qu'on connaît les choses sur la parole, on connaît les promesses, on connaît tout ça, mais on s'arrête à cette étape alors qu'il faut aller plus loin. Seigneur, je sais ça, mais je veux le vivre. Seigneur, je sais que tu es plein d'amour, mais Seigneur, je veux que ton amour soit répandu dans mon cœur. Oh, je me souviens de cette fois, quand j'étais un jeune étudiant, où j'ai réalisé ma misère, j'ai réalisé que j'aimais Dieu avec mes forces à moi, mais que ça ne marchait pas. Et j'ai dit, Seigneur, remplis mon cœur de ton amour. J'essaie d'aimer les gens, moi, mais ça ne marche pas parce que c'est avec mes forces. C'est mon amour. Et je suis vite épuisé, vite fatigué. Oh, quelque chose qui une fâcherie, quelque chose qui se passe mal le dimanche, et ça y est, j'ai plus envie. « Seigneur, non, remplis mon cœur. » Ben, je peux vous dire, le jour où j'ai fait cette prière, « Seigneur, remplis-moi de ton amour à toi. » Ben, le Seigneur l'a fait. Et le Seigneur, il attend que ça, qu'on vienne à lui en disant, « Seigneur, je t'ouvre mon cœur. J'ai besoin d'expérimenter ta présence. » David fait cela. « Sonde-moi, ô Dieu. Connais mon cœur. » Et il invite, en fait, dans ce psaume, le Seigneur à se faire connaître dans son cœur, dans ses conceptions et même dans ses chemins, dans ses voies. C'est ce qu'on voit, il commence en disant « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». C'est cette prière de la fin qui résume un peu la pensée du psaume, à partir du verset 23 au verset 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Dieu veut se faire connaître à notre cœur d'abord et avant tout. Le cœur au sens biblique du terme, c'est pas le muscle qui fait circuler tout le sang. Le cœur, c'est le centre, l'intérieur de l'être humain, le siège de la volonté, de l'intelligence, des émotions. C'est ça le cœur dans la Bible. Et c'est là où, quand le Seigneur vient nous donner un cœur nouveau, il peut venir habiter par le Saint-Esprit. Et que nous dit David sur Dieu, et qui concerne le cœur dans ce psaume ? En fait, il nous dit que Dieu donc, est omniscient, c'est-à-dire que Dieu connaît nos cœurs à chacun. Dans sa profondeur. Et plus on va faire cette prière « Sonde-moi, ô Dieu », plus on va dire « Seigneur, va au plus profond de mon cœur pour me montrer peut-être ce qui n'est pas bon, et qui doit en sortir, sonde mon cœur, connais mon cœur, Seigneur. Je t'ouvre la porte, je te laisse faire le travail. Et David dit au verset 2, par exemple, tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève. Combien de fois vous êtes assis et levé hier? Tiens, question. Regardez, c'est une question toute simple, hein. Mais je me suis dit, mince, mais je ne sais même pas la réponse, en fait. Et pourtant, c'est hier. Mais on s'est assis, on s'est levé X fois. Peut-être c'était à cause de la fatigue, pour voir une émission à la télévision, pour manger, pour écrire, pour travailler. Il y a plein de raisons de s'asseoir ou de se lever. Mais on n'est même pas capable de dire hier, voilà combien de fois je l'ai fait. Et Dieu le sait. Mais il le sait pour moi, mais il le sait pour toi, mon frère, toi, ma soeur, pour tous, même sur toute la planète. Dieu sait toutes choses. Il sait ceux qui s'assoient, ceux qui se lèvent, à quel moment ils le font. Et en fait, il faut aller plus loin que ça. Dieu connaît nos mouvements et il connaît surtout nos motivations. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses, on peut faire même beaucoup d'œuvres qui plaisent à Dieu en apparence, mais si la motivation qui est au fond n'est pas bonne, ça ne fonctionne pas. Parce que Dieu connaît. Dieu regarde, ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur. Est-ce que vous aimez cette pensée que Dieu va au fond des choses? Combien c'est bon de savoir cette réalité, que le Seigneur va au fond de nous-mêmes. Il sait quand je marche, quand je me couche. Il sait quand nous sommes debout, à l'heure que nous sommes debout, à l'heure que nous dormons. Ça veut dire qu'il sait combien de temps on a à notre disposition. Il sait si parfois on a dit « j'ai pas le temps », mais qu'en fait on a vraiment le temps, mais qu'on le sait, on s'en sert pour autre chose. Il sait tout ça. Ça ne sert à rien de trouver des excuses avec le Seigneur. Ça ne sert à rien d'essayer de parlementer parce qu'il sait. Les hommes, c'est une autre histoire parce qu'ils ne connaissent pas tout. Mais Dieu sait tout. Et cette conscience-là doit déjà nous amener à mettre notre cœur à plat devant le Seigneur. À quoi ça sert de lui dire « Seigneur, tu sais que je ne peux pas faire ceci, Seigneur, tu sais que je ne peux pas faire cela », alors que Dieu vous demande de le faire? Ça ne sert à rien, puisque s'il vous demande de le faire, il vous donne la force, il vous donne le temps, il vous donne le courage, il vous donne le zèle, il vous donne tout. À nous de le prendre. À nous de nous en saisir pour accomplir sa volonté. Car la parole n'est pas sur ma langue, que tu la connais déjà entièrement. Vous connaissez ce verset qui dit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Dieu connaît même les paroles que nous prononçons, et parfois elles sont révélatrices de notre foi. Je me souviens aussi de cette réalité-là, quand on parlait avec des frères, c'était dans le groupe de jeunes, on parlait avec des frères, on abordait le match de foot de la veille, on parlait, je ne sais pas, de la pluie, du beau temps, de la catastrophe naturelle qu'il venait d'avoir. Alors là, ça partait de tous les côtés, tout le monde avait son avis, tout le monde était convaincant. Puis on commençait à parler des choses de Dieu, et là, pfiouf, il y en a, ils n'osaient plus parler, on ne les entendait plus. C'est comme s'ils étaient muets. Et je me disais personnellement, moi j'aimais ces moments où on parlait du Seigneur parce que ça me faisait du bien. Je me disais, mais mince, on est capable de développer un art oratoire même pour parler d'un ballon de foot. Et pour parler des choses de Dieu, ben on devient muet, réservé. C'est pas trop, on n'est pas à l'aise. Et alors, bien sûr, moi, c'est une leçon pour moi, en disant, Seigneur, aide-moi, donne-moi la force, donne-moi la capacité. Et le Seigneur nous dit, ce n'est pas un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse qu'il nous a donné. Et avec cette réalité-là, quand on le vit, ben, le Seigneur nous encourage et le Seigneur nous exhorte. Mais je me souviens quand j'étais, moi, dans ce camp de ces personnes qui étaient réservées quand les gens parlaient de Dieu. Je me souviens. Mais je sais ce que le Seigneur a fait dans mon cœur pour que je puisse avoir ce naturel pour parler des choses de Dieu. Parce que le Seigneur veut nous remplir de son esprit. Tu m'entoures par devant et par derrière. Tu mets ta main sur moi. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui se cachent. Il y a des gens qui font tout pour se mettre un peu en retrait de la société parce qu'ils ont peur que leur nom soit répertorié quelque part. Ils ont peur d'être géolocalisés. Ils ont peur qu'on leur dérobe les informations financières de leur carte bancaire. Et il y en a, ils sont dans limite extrême à se cacher, à se préparer déjà à la fin du monde, alors qu'on s'en approche, oui, mais on n'y est pas encore quand même. Et sauf qu'ils sont guidés par la peur et se mettent en retrait de tout. Mais savez-vous qu'ils ne pourront jamais se mettre en retrait du Seigneur? S'il y en a un qui connaît tout de nous, même le numéro de notre carte bancaire et le code, qu'on ne va pas donner à personne, il ne faut pas le donner. Hein. Mais Dieu le sait. Mais il n'en a que faire. La terre lui appartient. L'or et l'argent sont à lui, dit la parole. Parce qu'il tient le monde dans sa main, donc forcément. Mais il nous connaît parfaitement. Et combien c'est bon, quand on connaît le Seigneur, de dire « Seigneur, mon cœur, il est là devant toi. » Et je fais cette prière, « Sonde mon cœur, Seigneur. » Voilà ce que moi j'ai l'impression, voilà où c'est que j'ai l'impression d'être arrivé, mais Seigneur, toi, montre-moi ce qu'il en est. Montre-moi où c'est que j'ai besoin de faire des progrès. Vous savez, quand quelqu'un croit qu'il est spirituel en disant qu'il maîtrise tout, qu'il connaît beaucoup de choses sur la parole de Dieu et qu'il va enseigner à tout le monde, ben, il est en grand danger. Parce que le cœur qui est spirituel, le cœur qui est vrai, c'est celui qui dit « Sonde-moi, Seigneur, j'ai besoin encore de faire des progrès. » Oui, c'est une certaine connaissance, mais je veux encore plus de toi, Seigneur. Parce qu'à mesure qu'on connaît le Seigneur, on se rend compte qu'il est encore plus grand que ce qu'on pensait, et il est encore plus infini que ce qu'on pensait, et ça ne nous donne qu'une envie, c'est de le chercher encore davantage. Si on ne cherche pas Dieu, c'est qu'on n'a pas goûté à Dieu, tout simplement. Mais quand on a goûté même un tout petit, une miette de la présence de Dieu, ben on en veut toujours plus. Parce qu'on sait combien c'est bon. Et en fait, ce psaume, il nous place devant un choix. Soit le choix de fuir, mais ça ne sert à rien. Comme on vient de le dire, il connaît tout. Mais il ne va pas forcer notre cœur, le Seigneur. Le Seigneur nous place devant ce choix de fuir ou de nous laisser connaître. De faire face humblement à sa connaissance et de dire, Seigneur, vas-y. Fais ce que tu veux de ma vie. Mais vous savez combien c'est pas évident ce choix. Parce que intellectuellement, tout le monde fait le bon choix, mais de manière pratique, c'est pas gagné. C'est pour ça qu'il faut savoir dire, Seigneur, sonde mon cœur. Sonde-moi, connais mon cœur, Seigneur. Bien sûr qu'il le connaît avant même qu'on lui demande, mais il aime quand son enfant vient lui demander cette prière, sonde mon cœur, Seigneur. Parce qu'il sait que quelqu'un qui va faire cette prière-là, eh ben, il va pouvoir en faire quelque chose. Que quelqu'un qui dit, oh, mais j'ai pas besoin, moi, en ce moment, ça va très bien, je peux m'en sortir, je peux même dire aux autres ce qu'il doit faire. Non, Seigneur, sonde mon cœur. Dieu veut se faire connaître à nos cœurs, Dieu veut se faire connaître à nos conceptions. Éprouve-moi et connais mes pensées. Dans nos pensées, il y a des raisonnements, il y a des conceptions qui sont souvent inspirées des choses humaines, parce qu'on est humain, c'est normal, mais parfois c'est la chair qui nous fait réfléchir et du coup qui fausse notre chemin. Et on peut avoir la bonne motivation dans le cœur, la bonne volonté, je veux plaire à Dieu, je veux servir Dieu, mais nos raisonnements sont pas bons et du coup on dévie. Et je vous donne cet exemple très simple, j'ai la bonne volonté de réparer une voiture. Mais si j'y connais rien, est-ce que vous allez faire appel à moi? Mais non, parce que peut-être qu'en réparant, je vais vous griller le moteur. Parce que si je ne connais pas, je peux avoir des conceptions sur comment marche une voiture, mais si ce ne sont pas les bonnes, même si j'ai la meilleure volonté du monde, ça ne fonctionne pas. On a besoin d'avoir un cœur qui a ce désir pour Dieu, mais on a besoin aussi que Dieu nous donne cet entendement, cette intelligence renouvelée. Offrez vos corps comme des sacrifices vivants, saints, irréprochables, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Le Seigneur veut nous qu'on offre notre vie au Seigneur, afin qu'il puisse renouveler notre intelligence. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regardez ce qu'il dit au niveau des pensées, verset 17. Vous avez vu ça? Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand, si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Cet homme est en train de réaliser tout ce que Dieu sait. Il fait un petit listing là, mais on pourrait continuer. Hein. On pourrait continuer, rajouter. Et en plus, il parle là que de lui. Il parle que de ce qu'il a expérimenté dans sa vie. Mais si chacun rajoutait la sienne, le psaume 139, il serait infini. Il serait long. Il prendrait toute la place dans la Bible. Mais c'est vrai que c'est bon de faire notre propre sondage personnel. Seigneur, qu'est-ce que tu sais de moi? Tu sais tout de moi. Tu me connais. Et combien c'est bon de laisser ces conceptions fausses, inspirées par la chair, être canalisées, corrigées, transformées par la parole de Dieu. Et David le fait en déclarant des choses avec force. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce psaume, il déclare des choses très fortes. Il parle de la science qui est tellement élevée de Dieu face à des gens qui disent « Moi, je sais tout. Moi, je maîtrise Dieu. » Aujourd'hui, il y en a qui vous disent « Voilà, les 7 étapes pour être délivré, clac, 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 il faut faire comme ci, comme ça. » peux vous dire que il n'y a pas cette étape pour être délivré. Dieu fait comme il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Il ne peut y avoir qu'une étape. Il peut y en avoir 18. Ce n'est pas une question de méthode. La science de Dieu, elle est trop merveilleuse, est au-dessus de notre portée, trop grande, trop élevée. Ceux qui déclarent, et vous savez, c'est des choses qui attirent les gens sur Internet. Ah, quelqu'un qui a la méthode pour pouvoir... Un jour, on est venu me voir, on m'a dit, mais c'est quoi la prière pour être délivré? Je lui ai dit, il n'y a pas une formule magique, hein. Il faut juste prier de tout son cœur, demander, croire que Dieu a la puissance, et puis lui demander, simplement. C'est tout. Non, non, moi je veux la prière. Oui, on m'a parlé qu'il y a une prière spéciale. Mais ça, on vous a menti. Parce que la science de Dieu, vous savez qu'il y a des prières qui existent, qui sont adressées à d'autres personnes. Et je crois qu'il y a une prière qui existe adressée à Judas pour guérir les gens, utilisée par les radiesthésistes. Ça vous intéresse de la connaître? Surtout pas. Surtout Judas en plus, je veux dire. Si c'était Jean encore, et même pas, parce qu'on ne veut pas prier les... Mais non. Il y a des gens aujourd'hui qui prient des prières, et ça fonctionne en plus, parce que l'ennemi de nos âmes, il a la puissance, hein. Il a la puissance pour tromper, pour séduire. Mais quand on a la parole de Dieu entre les mains, on ne veut pas prier Judas. On veut prier l'Éternel. Sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur, c'est toi que je veux, Seigneur. Je ne veux pas croire que je maîtrise des choses. Oui, je connais la formule magique pour faire ceci, cela. Non, je veux être dans cette dépendance. Pourquoi est-ce que Dieu ne nous donne pas des méthodes toutes faites qui marchent à tous les coups 100% du temps? Parce qu'il veut un lien de dépendance avec nous. Il veut qu'on soit toujours accroché à lui. Il veut rester dans ce mystère, cette lumière inaccessible, mais que, dans laquelle on peut s'approcher par la puissance de l'œuvre de la croix. Par cette communion avec Dieu de jour après jour, par sa parole, par la prière, par la communion fraternelle, le Seigneur nous dirige, nous conduit, et on peut le connaître de mieux en mieux. Est-ce que vous auriez planifié de faire passer le peuple d'Israël par la mer Rouge ou par le Jourdain? On a vu ça hier avec les ados. Est-ce que vous auriez, c'est le chemin que vous auriez planifié quand vous, si vous étiez organisateur de voyage. Personne n'aurait fait ça, c'était la folie. Et c'est là où on se rend compte que les pensées de Dieu sont bien au-dessus de nos pensées. Ses voies ne sont pas nos voies. Voilà pourquoi on ne peut pas dire « Moi, je maîtrise la foi, moi, je connais tout. » Non, Seigneur, cette science, elle est au-delà de ma portée. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton intelligence. J'ai besoin de ta sagesse. Et le Saint-Esprit nous donne ces choses-là. C'est ça qui est merveilleux. Par la foi, le Saint-Esprit nous donne... Imaginez quand il y a un don spirituel qui est donné, qui dévoile la vie de quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? La personne, elle n'y connaît rien à l'autre personne. Mais c'est la connaissance de Dieu qui est répandue dans l'intelligence de la personne, qui est donnée par la prophétie et qui va convaincre. La connaissance de Dieu qui agit. Une autre fausse conception, je peux me cacher loin de Dieu. C'est pour ça que David dit... de tout son cœur, même si je vais à l'autre bout de la terre, où c'est que je peux fuir, Seigneur, de ton esprit? Où c'est que je peux m'en aller? Vous savez, des fois, certains croient qu'en sortant d'ici, le Seigneur ne nous voit plus. J'apporte ma louange, j'apporte mon chant, j'apporte mon offrande, je passe la porte, hop, ça y est, le Seigneur ne voit plus. Il a mis les lunettes noires là. Non, non. Je peux aller à l'autre bout du monde. Je peux aller même, je vous le dis, à l'autre bout de la galaxie. Je vais plus loin que David. Mais c'est pareil. C'est là où Dieu est. Il a tout créé. Je ne peux pas me cacher de Dieu. Vous savez que souvent, on se laisse piéger par la fuite. Et combien c'est dommage. Je me souviens, quand on était à Toulouse, on voyait des gens qui tournaient pas mal dans les églises parce que quand ils avaient un souci avec un pasteur, ils allaient dans l'autre église à côté jusqu'à ce qu'ils aient un souci avec l'autre pasteur et du coup, ils vont à l'autre église. Mais ça, c'est la fuite. Je me souviens aussi... Et ça me fait tellement mal au cœur quand j'y repense à cette famille. À chaque fois qu'il y avait un changement de pasteur, ils revenaient à l'église. Et donc ils expliquaient, oui, le pasteur d'avant, il était comme ceci, il était maladroit, il était... Bon, ça peut arriver des maladresses des pasteurs, hein, je peux vous le dire, ça arrive. Mais à un moment donné, ben, le pasteur était obligé de leur faire une remarque. Parce qu'il y avait certaines choses qui n'allaient pas. Et à ce moment-là, ah, mais si c'est comme ça, on s'en va. Et puis ils partaient. Pendant des années, ils ne mettaient plus les pieds dans l'église. Et au changement de pasteur suivant, ils revenaient en disant « Oh, le pasteur d'avant, il est comme ceci, il est comme cela. » Alors, soit ils n'ont pas de bol du tout, ils n'ont que des mauvais pasteurs, mais j'en doute. Soit ils sont dans la fuite. Le Seigneur permet Et si c'est répété à de nombreuses reprises, si les gens, plusieurs personnes différentes à de nombreuses reprises nous disent la même chose, peut-être que les gens, à un moment donné, ils ont raison. C'est bien de réfléchir et de se dire, si on me fait toujours la même remarque, c'est que peut-être c'est moi qui ai besoin de changer, pas les autres. Mais combien on a besoin de ne pas se cacher de Dieu, surtout. Si on veut faire des progrès, on est quelqu'un qui est capable de dire, éprouve, éprouve mes pensées, Seigneur. Connais mes pensées. Dieu nous demande de nous confronter à lui dans toute sa perfection pour que nous puissions voir en nous toutes nos imperfections. Et si on n'a pas accepté ça, ben on sera souvent triste et frustré par la parole de Dieu parce que souvent elle nous ramène, elle est ce miroir qui nous montre ce qui ne va pas en nous de la manière spirituelle. Et combien c'est bon quand on a compris ça. Mais moi, je me régale quand le Seigneur me dit, tiens, il y a ça qui ne va pas dans ta vie. Seigneur, merci, parce que comme ça, je vais pouvoir grandir. Je vais pouvoir faire des progrès. Je vais pouvoir avancer. Pensez-vous que le Seigneur nous dira, oh, c'est bon, maintenant, j'ai plus rien à te dire. Si vous pensez ça, on a besoin de se voir après. Non, mais on sait que le Seigneur veut nous parler, parce qu'il nous aime. Ce psaume nous parle de cette pensée, alors qu'aujourd'hui elle est très présente, cette conception, je n'ai pas d'avenir, tout est mal, tout est noir, là, on s'inquiète par rapport au futur, et David lui est en train de dire le contraire, c'est toi qui m'as formé, tu as formé mes reins, tu m'as tissé, quand je n'étais qu'une masse informe, Seigneur, tes yeux déjà me voyaient, sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Est-ce que ça veut dire que tout ce qu'on vit de mauvais, Dieu l'a prévu? Non. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on vit de mal qui ne sont que le résultat de nos mauvais choix. Alors regardez la terre, comment ça se passe, vous le comprendrez. Dieu, est-ce qu'il a demandé que des gens meurent dans les inondations? Est-ce que c'est lui qui envoie tout cela? Bien sûr que non. Mais les gens font des mauvais choix, il y a cet enrichissement, cette utilisation industrielle à outrance qui défigure totalement la création, qui entraîne des cataclysmes et qui entraîne des morts. Mais ce n'est pas Dieu qui a prévu ça. Par contre, Dieu qui est tout puissant, de tout ça va en faire ressortir quand même un bien, à un moment donné. Alors là, ne me demandez pas plus d'explications, il n'y a que lui qui est capable de le faire. En tout cas, Dieu a un avenir pour nous. Sur son livre sont inscrits des projets. Ça vous intéresse de lire ce livre-là? Le livre où il y a inscrit tous les jours, destiné par Dieu. Mais oui, mais c'est possible. Quand on a une communion avec Dieu, quand on laisse Dieu nous parler, quand on laisse Dieu nous diriger, quand on se place à un carrefour de notre vie, on se met à genoux, Seigneur, tu vois, j'ai besoin d'une direction, j'ai besoin que tu me conduises, Seigneur, j'ai besoin que tu éprouves mes pensées, voilà, moi j'ai fait tel ou tel plan, mais Seigneur, toi, montre-moi ce que tu veux. Josué, il était dans cet état d'esprit, Seigneur, montre-moi le chemin où c'est que je dois passer. Oui, mais je te le montre, c'est le Jourdain, le chemin. Seigneur, le Jourdain, il est en cru, montre-moi un autre chemin. Non, c'est le Jourdain, mais tu mettras l'arche au milieu et tu verras que tu pourras passer. Qui aurait planifié ça encore une fois? C'est totalement de la folie. Et la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Laissons le Saint-Esprit renouveler notre intelligence. Laissons la connaissance de Dieu nous amener dans cette épreuve de nos pensées. Vous savez que le mot « éprouver », c'est celui qui est utilisé pour l'or. L'or qui est éprouvé par le feu. Ça vous intéresse d'être éprouvé par le feu? Savez-vous que quand vous dites « Seigneur, éprouve mes pensées », vous êtes en train de dire « Seigneur, envoie le feu ». Mais pas le feu du Saint-Esprit, le feu de l'épreuve, le feu de la fournaise. « Seigneur, envoie ton feu, mais afin de purifier mon cœur ». Mais vous savez que l'or, il n'a pas trop à craindre du feu. Hein. La Bible compare la foi à l'or. Mais l'or, il n'a rien à craindre du feu. Il devient plus malléable, plus liquide. Mais c'est les scories qui sont dans l'or qui ont à craindre, parce qu'elles sont mises de côté à ce moment-là. Les impuretés qui sont dans l'or, là, elles sont dévoilées, sont mises au grand jour au travers du feu. Voilà pourquoi on n'a pas à trembler. Alors bien sûr, c'est jamais évident. On ne veut pas le feu pour le feu, on ne veut pas l'épreuve pour l'épreuve. Mais on veut être éprouvé pour être de plus en plus pur aux yeux de Dieu et de plus en plus malléable entre ses mains, afin d'être des vases d'honneur dans sa maison. Amen. Laissons Dieu éprouver nos conceptions, mais laissons Dieu aussi se faire connaître à nous dans nos chemins. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Regarder, c'est littéralement vanner ou tamiser. Vous savez, quand on utilise quelque chose pour tamiser de la terre ou du sable, qu'on tamise et on en ressort les cailloux. Mais c'est ça, ce regard qui filtre, qui enlève toutes les saletés. Dieu, dans nos vies, peut discerner entre le blé et la paille. Dieu, dans nos vies, peut discerner entre l'esprit et la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dieu peut discerner tout cela. Et malgré toute la bonne volonté de nos cœurs, malgré tous les bons raisonnements, à un moment donné, il faut qu'on se mette en marche, il faut qu'on avance, il faut qu'on aille sur notre chemin. Mais David a compris en disant, Seigneur, regarde si je suis sur un bon sentier, regarde si je ne suis pas en train de me tromper, regarde si je ne fais pas des mauvais choix, Seigneur, conduis-moi sur la voie de l'éternité. David a compris que même dans les pas qu'il fait tous les jours, ça peut avoir des conséquences sur la fin. Alors, je ne parle pas que ça remet en question notre salut, c'est pas ça dont je parle, mais que ça peut, à terme, si on néglige d'avoir cet état de cœur-là, on peut se mettre en danger spirituellement, ça c'est vrai. Si on ne veille pas sur notre propre voie, on risque de tomber dans ce chemin. Regarde si je suis sur cette mauvaise voie. Voulez-vous la mauvaise voie ou voulez-vous la voie de l'éternité? Encore une fois, la réponse, elle est évidente. Mais la pratique de la réponse, elle est moins évidente. Seigneur, regarde. Regarde où c'est que je suis. C'est tellement intéressant de regarder où c'est que ce chemin que je prends est en train de me mener. Je m'arrête un instant et je dis, mais où c'est que ça me conduit? Je pense à cette histoire de cette famille. Il y avait une période de prospérité et les enfants étaient continuellement mis à la garderie. Les parents étaient des fonctionnaires qui travaillaient beaucoup. Ils partaient tôt le matin, ils plaçaient leurs enfants à la garderie. Et le soir, très tard, ils les prenaient, ils les couchaient. Et puis, c'était ça seulement. Et puis, il y a eu une crise. Il y a eu une crise et les deux parents étaient licenciés de ce bon emploi. Ils ont dû trouver des emplois plus difficiles, mais qui, du coup, ils étaient plus présents. Et ils n'avaient plus les moyens de mettre les enfants à la garderie, donc ils les avaient avec eux. Et un soir, quand le père est rentré à la maison avec les soucis de la journée, sa petite fille est montée sur ses genoux, elle a mis ses bras autour de son cou, et elle a dit « Papa, ne redeviens pas riche !» Alors le papa était interloqué par cette demande. « Quand tu étais riche, tu ne venais pas à la garderie, mais maintenant on peut être avec toi, et on peut aller sur tes genoux, et on peut t'embrasser. Alors s'il te plaît, papa, ne redeviens pas riche !» Et le père s'est soudainement rappelé et réalisé que sa vie était vide jusqu'à présent, qu'il était passé à côté de plein de choses parce que il s'était préoccupé de l'argent plus que de sa famille. En plus, l'argent c'était pour sa famille, mais il a négligé le principal. Le chemin qu'il était en train de prendre n'était pas le bon. Et là, c'est sa fille qui lui a fait la leçon, sans le savoir. Mais vous savez que souvent c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est notre Père Céleste qui attend les bras ouverts qu'on vienne dans sa présence. Et c'est nous qui avons toutes sortes de préoccupations, de priorités, qui font qu'on n'a pas de temps à consacrer à notre Père, qui n'attend que ça lui. Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Demandons ce matin encore au Seigneur de sonder nos cœurs. Laissons-le éprouver nos pensées. On va fermer les yeux quelques instants. Mais que cette prière de David ne soit pas dans la case connaissance, psaume merveilleux que l'on a mis dans notre cerveau. Mais que cette prière de David soit notre prière ce matin. Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie. Mon frère, ma sœur, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Tu ne peux rien lui cacher. Ça ne sert à rien de fuir. Le plus important, c'est de s'approcher de lui et de dire, Seigneur, je veux que tu puisses rentrer en moi. Je veux te laisser ton amour, ta grâce, ta paix m'envahir encore. Seigneur, tu connais mes failles, tu connais mes défauts, tu connais tout. Mais justement parce que tu connais mes failles, tu as la réponse à me donner pour que je puisse être de plus en plus fort. Seigneur sait exactement ce dont on a besoin parce qu'il nous connaît. Le Seigneur sait exactement où c'est que nous en sommes et où c'est qu'il peut nous rejoindre parce qu'il nous connaît. Laisserons-nous l'intellect prendre le dessus sur la foi? Ou alors dirons-nous, Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, je veux que tu sondes mon cœur, que tu éprouves mes pensées, que tu me conduises sur la bonne voie. Seigneur éternel, nous sommes là devant toi ce matin. Nous n'avons qu'un désir, c'est que tu puisses te manifester dans nos vies. Tu connais chacun de nous parfaitement. Tu connais, Seigneur, là où nous en sommes. Tu connais les circonstances. Tu sais, Seigneur, là où nous avons besoin de faire des progrès. Tu sais là où nous avons des failles. Tu sais nos imperfections, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons venir à toi, à découvert, Seigneur. Le bouchon de nos vases, de nos bouteilles ouverts à 100% pour que tu puisses laisser ton Saint-Esprit rentrer. Oh, qu'il n'y ait rien en nous qui freine de cet élan-là. Qu'il n'y ait rien en nous, Seigneur, qui fasse comme un barrage dans notre cœur. Seigneur, mais nous voulons devant toi déposer les armes, confesser toutes nos fautes, Seigneur, et croire que tu es ce Dieu qui envoie ton Saint-Esprit à ceux qui le recherchent, à ceux qui lui obéissent, à ceux qui le lui demandent. Merci Éternel, ce matin de visiter ton peuple dans chacune des situations de nos vies, Seigneur, que tu puisses, par ta main bénissante, faire grâce encore à tes enfants. Seigneur, oui, nous nous plaçons devant toi, sous ta main puissante, et nous croyons que tu agis en notre faveur, parce que tu nous aimes, parce que tu es le Dieu qui est omniscient, et dont cette connaissance veut envahir la terre, oui, mais notre cœur d'abord. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour l'œuvre que tu accomplis. Amen.